7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Pour la journée internationale des filles, nous sommes à Abidjan pour parler de l'éducation des filles. Dans les écoles du continent africain, les filles résument une injustice flagrante. Elles vont moins à l'école que les garçons, alors qu'elles y réussissent plutôt mieux. En Côte d'Ivoire, sur les plus de 2 millions d'enfants qui ne fréquentent pas les bancs, comme on dit ici, ou qui les quittent prématurément, eh bien on trouve une majorité de filles. Mais ce pays a cette particularité d'accepter d'ouvrir les yeux sur ces inégalités et même de rendre public les chiffres d'un fléau qui n'épargne pas les pays voisins, à savoir les grossesses précoces. Alors plusieurs milliers de filles, entre 9 et 16 ans, tombent enceintes chaque année alors qu'elles sont scolarisées et ne reviennent plus à l'école dans la plupart des cas. Certes, il existe une vraie volonté politique de faire baisser ces chiffres peu compatibles avec l'ambition présidentielle de l'émergence, mais avec quels moyens et surtout avec quelles méthodes ? Comment notamment permettre le retour à l'école de ces très jeunes mamans ? On va en discuter avec nos invités. Yebou Aban, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes chargé de projet sur la question des grossesses en milieu scolaire au ministère de l'Éducation, très précisément à la direction de la mutualité et des œuvres sociales, la DEMOS, et vous avez vous-même été enseignant à l'école primaire et en lycée. Francis Akindes, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sociologue à la chaire UNESCO de bioéthique à l'université Alassane Ouattara de Bouaké dans le nord de la Côte d'Ivoire, et à la demande du ministère de l'Éducation, vous avez dirigé une étude il y a quelques mois sur les grossesses en milieu scolaire. Famari Barrault, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directeur de l'ONG Save the Children en Côte d'Ivoire et votre organisation a lancé en 2016 une campagne sur 3 ans pour la scolarisation des filles qui s'appelle « Aucun enfant oublié ». Et puis en fin d'émission, on donnera la parole aux 3 finalistes du concours RFI Challenge App pour l'éducation des filles. Vous savez, ce concours, on vous en a beaucoup parlé à l'antenne. On a reçu 600 projets numériques. Aujourd'hui, les finalistes ne sont plus que 3 femmes. Et donc la gagnante sera annoncée demain dans notre émission en public à l'Institut français. Mais on va leur donner la parole aujourd'hui en fin d'émission. Avec nous dans cette émission, je ne vous l'ai pas encore présenté, une jeune fille juste à côté de moi. Bonjour Juliana.
Bonjour Manuel.
Juliana, tu m'as autorisé à te tutoyer, tu as 16 ans, tu habites à Abobo, qui est un quartier populaire d'Abidjan. C'est grâce à l'ONG CARE qu'on a fait ta connaissance. Dis-moi, quel âge tu avais quand tu es tombée enceinte ?
13 ans.
Tu avais 13 ans ?
Oui, j'avais 13 ans.
Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé, ton histoire ?
J'avais 6 ans, quand mon papa est décédé, je suis restée avec ma maman, plus mes 6 petites sœurs. Ma maman payait l'école. Puis j'ai croisé un monsieur qui m'a abordé, qui disait qu'il était fan de moi, qu'il voulait m'épouser.
Ce monsieur, il habitait juste à côté de ton école ?
À côté de mon école.
Il avait quel âge ?
40 ans.
40 ans et toi, 13 ans. Il savait quel âge tu avais ?
Oui, oui, il
savait. Tu allais à l'école en CM2 ?
Oui, oui.
Il t'a dragué ?
Il m'a dragué, j'ai accepté. Il me donnait tout ce que je voulais. J'ai dit d'accord. Souvent, il m'appelle, je quitte la classe. Je m'en vais le voir, on sort, on se promène, on va partout.
Tu as eu des relations sexuelles. C'était le premier homme que tu connaissais ?
Oui, oui.
À 13 ans ?
À 13 ans, oui.
Tu pensais que tu étais très jeune ?
Moi, je me voyais en grande dame.
En grande dame ?
Parce que j'étais avec lui, il me donnait tout, il m'envoyait partout. Donc, je me voyais en grande dame. Mais le jour que je l'ai annoncé que j'étais enceinte, il a refusé. Il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Ça a 5 mois que j'ai su que j'étais enceinte.
C'était bien sûr trop tard pour avorter. Et le premier qui l'a su à la maison, c'est ton beau-père.
Le ventre sautait. Donc quand il a vu, il dit ça c'est quoi ça ? Il dit c'est rien. Que j'ai mis un chiffon sous mon ventre.
C'était pas un chiffon, c'était un bébé.
Il dit j'ai mis un chiffon. Il dit t'as mis un chiffon. En un chiffon là, il voit. Il dit non c'est chiffon. Qu'on ne peut pas enlever. Donc il m'a giflé. Et il a soulevé mon habit. Sur mon ventre. Il était tellement en colère, puis fâché. Quand il est venu se marier avec ma maman, il disait toujours ma maman n'a qu'à me laisser quitter la maison, n'a qu'à me faire partir. Donc, quand il a appris qu'il était enceinte, là-même, ça l'a donné le courage même de me jeter.
Il t'a chassé de la maison.
Au dehors. devant la porte. Ceci est resté devant la porte là pendant 2 jours.
Sans pouvoir revenir, en dormant dehors.
Oh Dieu.
Ta maman, agricultrice, qui fait de la culture maraîchère, est revenue à ce moment-là.
Mm-hmm. Elle m'a trouvée devant la porte. Elle dit, j'ai fait quoi ici? Parce que j'étais abaissée, elle ne m'a pas vue. Elle n'a pas vu le ventre. Elle dit, fais quoi ici? Elle commence à pleurer. Elle dit, ah, ton mari m'a mise au dehors parce que je suis enceinte.
Alors, ça a été une période terrible parce qu'il y a eu beaucoup de cris dans la maison. Beaucoup de disputes.
Oui, oui.
Beaucoup de colère de la part de ta maman aussi.
Mm-hmm.
Comment tu l'as vécu, ça?
Difficile. C'était pas facile pour moi. On causait pas. Je me sentais seule.
Tu as accouché. Tu as eu ce petit garçon, David, qui a 3 ans aujourd'hui. Tu n'es plus jamais revenue à l'école depuis l'accouchement.
Mm-hmm.
Pourquoi?
J'avais honte.
Mais tu avais réussi le concours pour entrer en 6e?
Oui, oui. Moi, je vais faire quoi en 6e avec mon âge 16 ans? Quand je regarde tout ça là, je préfère faire ça en cours du soir, me cacher, tranquille, et puis avoir ce que je peux avoir en cours du soir.
Tu as peur de la honte en 6e?
Mm-hmm. Non, j'ai parlé ça à ma maman. Elle dit qu'elle ne peut pas s'occuper de moi et mon fils, qu'on est beaucoup, que moi-même de m'occuper de mon fils. Non, j'ai vu une femme, on fait la coiffure. Non, c'est elle qui m'a mise dans son coin.
Aujourd'hui, tu travailles dans la coiffure?
Mais je ne paye pas, c'est elle qui... Elle m'a pris comme sa fille, je travaille là-bas comme ça.
Elle te paye?
Non, non.
Tu ne gagnes pas d'argent?
Non, non.
Le dimanche, tu travailles où?
Le dimanche, je fais le ménage.
Tu es payée, là?
Mm-hmm.
Donc, tu gagnes un tout petit peu d'argent pour subvenir aux besoins de ton fils?
Mm-hmm.
Aujourd'hui, comment tu vois ton avenir, Juliana?
Mon avenir est brisé. C'est que je rêvais... Tout est parti en fumée. Et je suis restée derrière.
Donc aujourd'hui, tu voudrais aller au cours du soir, mais il faut un peu d'argent. C'est dur d'en parler? Tu pleures? Dis-nous pourquoi tu as voulu participer à cette émission à la radio.
J'ai voulu participer à cette émission pour expliquer un peu mon problème à toute la population et à toutes mes camarades qui m'entendent. Pour ne pas qu'il tombe dans la même bêtise que j'ai fait.
Ton histoire, évidemment, elle est riche d'enseignements. Francis Akindes, vous êtes sociologue. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Juliana?
Alors, Juliana, ton histoire est typique de ce que l'on rencontre souvent. C'est même des cas extrêmes. Elle disait tout à l'heure, mon avenir est brisé. Mais ça ramène à un ensemble de facteurs que l'on prend en compte dans la compréhension de ce phénomène. Ces phénomènes prennent forme dans des environnements familiaux décomposés ou recomposés. On a observé que l'âge du premier rapport sexuel chez les enfants tend à s'abaisser. Le premier rapport sexuel intervient entre 10 et 14 ans, selon les études qu'on a effectuées.
Pas partout dans le pays.
En tout cas, sur l'échantillon sur lequel on a travaillé, de façon générale, parce qu'on a travaillé sur Yamoussoukro, Daloa, Abobo, qui est la région 4, dans laquelle se trouve justement Juliana, et puis Bondoukou. Alors, dans le cas par exemple de Juliana, on sent que l'homme, vous voyez, elle a 13 ans, l'homme qu'elle a connu en avait 40. Donc, cet homme a exploité la fragilité sociale et économique de cette fille, a abusé d'elle, mais à fonctionner sur un marché sexuel qu'il faut prendre en compte. On est dans des contextes urbains où vraiment on est dans un jeu de séduction des jeunes filles qui tendent à répondre à une certaine masculinité, qui survalorise la consommation sexuelle des filles de plus en plus jeunes contre argent et cadeaux. Alors ainsi, cette tendance chez les filles à rechercher des sources de financement pour leur consommation totalement hédoniste contribue en retour à les exposer aux appâts de la gente masculine et surtout à les fragiliser lorsque le partenaire marque une préférence pour les rapports sexuels non protégés. Il y a les facteurs socio-économiques, mais il y a des spécificités sous-régionales qui interviennent dans les raisons, par exemple, de prévalence du phénomène. Daloa, par exemple. Daloa a été une localité dans laquelle l'État a concentré les établissements scolaires dans un même périmètre. Du coup, le loyer dans ce périmètre s'est accru et les enfants ont tendance à rechercher des logements plus loin. Et du coup, n'ayant pas les moyens de payer au quotidien le taxi, eh bien, les chauffeurs de taxi deviennent leurs amants. Alors, on appelle ça à Abidjan la place de devant. Quand vous entendez un chauffeur de Rororo vous dire « je réserve la place de devant », c'est qu'il a sa petite élève. Ensuite, il y a l'effet tournante pendant la période des vacances, qui est une période propice à la prise de grossesse totalement précoce. Ça, c'est du côté de la loi. Quand vous allez à Bondoukou, eh ben, c'est les grands-mères qui encouragent leurs petites filles à leur donner très rapidement un petit enfant, parce qu'elles ne voient pas toujours l'intérêt pour une jeune fille d'aller trop longtemps à l'école. L'enfant est plus valorisant que l'école. À Yamoussoukro, par exemple, autour de Yamoussoukro, la période de fête, la période de Pâquinon, c'est-à-dire Pâquinon, c'est une période de l'année, je crois, au mois d'avril, où les agriculteurs partis dans l'Ouest reviennent dans leur localité d'origine avec de l'argent. Donc, ils sont prêts à échanger de petits cadeaux contre la sexualité, un peu débridée. Donc, le résultat, c'est des grossesses précoces. Ou encore, à Bobo, on s'est rendu compte dans l'étude que le facteur socio-économique était très important. La situation de Juliana est totalement symptomatique de ce qu'on a pu observer dans une commune d'une ville comme Abidjan.
Est-ce que le phénomène des grossesses précoces en milieu scolaire, c'est un phénomène d'abord de la pauvreté ?
Eh bien, justement, nous avons essayé d'évaluer cela à partir des familles d'origine des filles qui sont tombées enceintes. On a construit des indicateurs synthétiques à partir des conditions de vie des ménages, le niveau d'équipement et un ensemble de choses. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas des familles forcément pauvres, même si elles sont modestes. Mais par contre, on a introduit dans les indicateurs des dépenses telles que les soins corporels, tout ce qui est investissement dans la beauté et l'entretien d'un téléphone portable. Et on s'est rendu compte que des tierces personnes interviennent dans les dépenses des filles, donc qui finance devient par exemple le gestionnaire des relations sexuelles. Et c'est des périodes que les jeunes filles n'arrivent pas à négocier parce que déjà l'âge des auteurs les met dans une posture de dominateur et les moyens financiers en rajoutent. Donc ça rend compliqué la négociation de ce moment dans les rapports sexuels.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins parce que nous sommes tous des voisins.
Yeboaban, vous avez entendu les conclusions de Francis Akindes pour son étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Depuis qu'on a eu le grand plan de lutte contre les grossesses précoces, où est-ce qu'on en est des chiffres, Yeboaban ?
Oui, je pense que les chiffres, pas pour cette année, mais juste l'année qui vient de s'achever.
2016,
les chiffres sont 2016, les chiffres sont autour de 4000 cas de grossesse. Et ça, c'est juste, c'est certifié.
Donc ça ne s'améliore pas.
Ouais.
Plus de 4000 cas de grossesse en milieu scolaire, dont un quart de filles qui ont moins de 14 ans.
Oui, c'est ça. Il faut dire que l'alerte a été sonnée quand les statistiques du ministère avaient compté entre 2012 et 2013, 5076 cas de grossesse. Et là, nous avons essayé, avec le lancement de la campagne Zéro Grossesse, de faire tout le tapage possible. Le ministre a fait, a créé un environnement favorable. Et là, sur deux années, on a constaté un tout petit peu une baisse. Mais alors, c'est un phénomène humain, social. Et donc, plus vous relâchez, plus ça repart. Donc nous sommes autour de 4000 cas de grossesse.
C'est ça. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que les écoles, en tout cas les écoles publiques, déclarent les chiffres. Hein. On ne se voile plus la face. C'est peut-être dans les écoles privées où on tient à sa réputation et là, probablement qu'on ne dit pas tout.
Oui, c'est ça justement. C'est ça justement parce que là, les responsables d'établissements privés pensent que ça contribue d'une mauvaise publicité en disant qu'il y a des grossesses qui sont sorties de leur établissement et que les parents pourraient ne pas inscrire leurs enfants là-bas. Ça, c'est un peu un nœud pour nous à l'éducation.
Globalement, est-ce que les enseignants sont également à mettre en cause dans les grossesses de filles ? On connaît le phénomène des notes sexuellement transmissibles. Quand on fait des émissions là-dessus, je peux vous dire que les auditeurs sont nombreux à nous appeler, sont-ils également à mettre en cause jusqu'au point de la grossesse ?
Oui, on peut dire qu'il n'y a pas, il n'existe pas de risque zéro. Nous avons constaté 1%, 1,9% des cas de grossesse, presque 2%. À l'éducation, nous disons que c'est déjà trop parce qu'on ne peut pas...
Par les enseignants,
on ne peut pas être le berger qui va se transformer en loup dans la bergerie. Et ça, lorsque ces cas-là sont avérés, le ministère n'hésite pas du tout. Il y a des sanctions. Il y a d'ailleurs un code de bonne conduite qui existe. Et les enseignants font l'objet souvent de suspension de leur salaire, de radiation ou même de traduction en conseil de discipline. Mais faut dire que souvent ce sont des jeunes enseignants, des enseignants dont l'âge est très très proche de
des élèves.
Celui des élèves. Bon, un professeur de 28 ans avec une élève de terminale ou de première de 21 ans, 22 ans, je pense qu'ils sont presque dans la même génération. Mais pas. Voilà. Donc, mais ceci ne dédouane pas du tout.
Si les grossesses précoces en milieu scolaire ne concernaient que les élèves de terminale, on pourrait crier hurra. Oui, hein. Voilà. Hélas, on n'en est pas là du tout.
On va jusqu'au moins de 14 ans. Et là, ça, c'est à déplorer.
Alors, on se souvient de la campagne Zéro grossesse à l'école. Il y a 2 ans, d'ailleurs, on y avait consacré une émission. Il y avait des chansons qui circulaient dans les écoles, comme « Ouvrez les cahiers, fermez les jambes ». Je ne sais pas si ce genre de refrain peut avoir un impact sur les mentalités, sur les familles. Vous, comment vous avez ressenti cette campagne, Famary Barrault, de l'ONG Save the Children?
Oui, cette campagne pour nous vient compléter parfaitement nos objectifs qui consistent à assurer l'éducation de toutes les filles en Côte d'Ivoire. Et cette campagne, nous l'avons lancée aussi pour accompagner les efforts du gouvernement en faisant des activités avec les leaders religieux, les leaders communautaires, les activités de sensibilisation, les activités de sensibilisation des parents, des comités de gestion, etc. pour que les enfants et les filles soient inscrites à l'école et qu'elles y soient maintenues. Évidemment, le phénomène de grossesse précoce, c'est un phénomène qui contribue justement à détruire un peu cet effort. Et donc, c'est en cela qu'il est important que nous puissions travailler ensemble, tous les acteurs, pas uniquement au niveau du ministère, mais absolument tous les acteurs, les parents, les familles, les enfants, afin qu'on puisse améliorer l'éducation sexuelle au niveau des enfants et assurer qu'il y ait un dialogue entre les parents et les enfants, parce que c'est quand même toujours un sujet tabou. Les parents ne sont pas toujours à l'aise pour aborder ces questions, mais n'ont pas les techniques nécessaires.
On va bien sûr en parler juste après le flash, hein, l'éducation sexuelle, que peuvent faire les enseignants, que doit faire l'école, et puis que peuvent faire aussi les familles. Mais sur cette campagne Zéro grossesse à l'école, Francis Akindes, comment ça a été perçu par les familles?
Alors, initialement, dans l'étude qu'a commandité le ministère de l'Éducation, on n'était pas parti du tout pour mesurer cette dimension des choses. Mais on est tombé là-dessus et il fallait, au coup des focus group et tout, nous avons abordé ce problème. Alors, on a été surpris par une chose. Le message qui a été adressé au système éducatif, aux partenaires du système éducatif, ont été diversement perçus. Certains directeurs d'établissement ont compris à travers ce message qu'il ne fallait pas permettre aux élèves qui sont tombés enceintes de côtoyer les murs de l'école.
C'était pas ça, évidemment.
C'était absolument
c'était,
pas ça.
Il faut que les filles ne tombent plus enceintes.
Ne tombent plus enceintes. Certains parents ont compris à travers ce message qu'il ne fallait pas que leurs filles aillent à l'école. Et les filles elles-mêmes ont compris que l'école ne voulait plus d'elles. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message doit être beaucoup plus explicite et peut-être même associer les personnes concernées, si on veut qu'ils touchent les cibles identifiées comme telles.
Il y a encore beaucoup de travail. Vous restez avec nous. Comment faire cesser cette double peine pour les jeunes filles, enceintes et privées d'éducation, alors qu'elles sont encore au lycée, voire à l'école primaire? 7 milliards de voisins, nous revenons dans 3 minutes, juste après le flash. Vous restez avec nous, on va parler bien sûr de l'éducation sexuelle et du tabou aussi de la sexualité dans les familles.
7 milliards de voisins, nous avons maintenant une lucarne. Voisins, voisines, on est ensemble. Et puis on va se parler, on va se dire la vérité.
Milliards de voisins, c'est sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. L'émission est enregistrée à Abidjan pour la journée internationale des filles, quand l'éducation se brise sur un os, les grossesses en milieu scolaire. Alors quel retour à l'école pour les milliers de jeunes filles qui tombent enceintes chaque année, plus de 4000 en Côte d'Ivoire, dont un quart de filles de moins de 14 ans. L'État a beau lancer des campagnes, les chiffres pour l'instant ne diminuent guère. Et puis derrière, c'est toute une école qui devient potentiellement dangereuse pour les filles, ou du moins ses chemins, ses ruelles, ses quartiers autour. Autant de raisons pour les parents de s'interroger sur le ratio risque et bénéfice. Juliana, tu as 16 ans, tu es dans notre émission, tu as accepté de témoigner devant nos invités. Tu nous racontais en première partie d'émission ton histoire. Tu as quitté l'école à 13 ans parce que tu étais enceinte. Tu as accouché d'un petit David qui est venu avec toi, qui a 3 ans, qui est incroyablement sage. Je crois qu'il fait un petit peu la sieste là, hein, dans les bras de Gladys de l'ONG CARE. Et donc, tu n'es plus retournée à l'école depuis. Tu nous as dit en première partie d'émission, ton rêve s'est brisé et tout ce que tu voudrais, bien sûr, c'est maintenant pouvoir retourner à l'école. On va bien sûr en parler. Yebou Aban, vous êtes chargée de projet sur la question des grossesses en milieu scolaire au ministère de l'Éducation. Francis Akindez, vous êtes sociologue à l'université de Boaké dans le nord de la Côte d'Ivoire et auteur d'une étude sur le sujet. Efa Marie Barraud, vous êtes directeur de l'ONG Save the Children en Côte d'Ivoire. Alors, si on met le problème sur la table des grossesses en milieu scolaire, ce que fait l'État, qui a le mérite de s'interroger, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de l'éducation sexuelle proposée, Francis Akindez, et quelles sont ses failles ?
La première chose dont on s'est rendu compte, c'est d'abord l'inadéquation entre le niveau où on a introduit l'éducation à la sexualité et l'âge de l'entrée dans l'activité sexuelle. Alors, les enfants entrent à 10 ans et ce n'est pas pendant qu'ils rentrent dans l'activité sexuelle qu'ils vont apprendre sur le champ la puberté.
Francis Akindez, vous ne pouvez pas dire à nos auditeurs que leurs enfants entrent dans une activité sexuelle à 10 ans quand même, parce que là, ils vont tomber de leur chaise.
Malheureusement, c'est ce qui est constaté. Alors, c'est pourquoi nous sujets...
Mais de manière très minoritaire.
De manière minoritaire, même s'il y en a 10 qui commencent à cet âge, il faut commencer tôt à leur parler de ce risque lié à un certain usage du sexe.
Les parents sont persuadés que plus on parle tôt du sexe, plus l'enfant entre en sexualité tôt.
Eh bien, ce n'est pas prouvé par les études scientifiques sur la question. Alors, c'est pourquoi nous avons estimé qu'il y a une manière de parler du sexe aux enfants à un âge plus jeune. Deuxième chose qu'on a remarqué, c'est que les enseignants dédiés à l'éducation à la sexualité ne sont pas formés pour faire ce métier. Ils sont eux-mêmes habités par les interdits liés au sexe et donc délivrent un message complètement lifté, ce qui ne correspond pas du tout aux attentes des jeunes. Et lorsqu'on rajoute à cela le fait que la campagne zéro grossesse, les enfants estiment qu'ils ont le sentiment que derrière cette campagne, c'est leurs parents qui leur parlent, l'approche abstentionniste, par exemple, de l'éducation sexuelle ne tient plus.
Abstentionniste, c'est-à-dire, en fait, c'est la position de l'Église, hein, pas de rapport sexuel, éloge de la virginité, abstinence, 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 donc on ne parle pas notamment de contraception, encore moins.
Et justement, les jeunes estiment qu'ils ont déjà des pratiques qui sont bien loin de se régler sur cette approche abstentionniste. On a été très loin dans les programmes. On s'est rendu compte que l'offre en matière d'éducation sexuelle ne comporte que deux parties. On parle de puberté aux enfants, on leur parle de la transformation du corps, mais jamais on ne touche l'aspect sensible qui est celui de la relation homme-femme, là où se joue tout. Là où les filles n'arrivent justement pas à négocier leurs relations en situation. Et puis, le quatrième aspect, la contraception, l'école n'en parle pas, mais les ONG communiquent sur cette question. Donc, il y a besoin d'harmoniser les politiques en direction de la jeunesse.
Et comment ça se passe du côté des jeunes? Yebou Aban, également Famari Barraud, vous avez travaillé avec des groupes de jeunes, notamment via les clubs dans les lycées, Famari Barraud. Qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes ?
Les enfants n'ont pas d'informations sur la question. Alors, nous préconisons qu'il est important que les parents puissent avoir cette conversation difficile pendant que la situation n'est pas encore tard, plutôt que d'avoir crier sur les enfants ou de les maltraiter parce que, justement, les enfants n'ont pas eu la bonne information et qu'ils sont tombés dans cette situation.
Yebou Aban ?
Oui, disons que les parents veulent peut-être qu'on peut communiquer avec leurs enfants, mais ils n'ont pas toujours la technicité nécessaire, ils n'ont pas toujours l'information aussi nécessaire. Et les enfants aujourd'hui passent devant leurs parents qui deviennent pour eux des analphabètes. Quelquefois, en discutant, ils se rendent véritablement compte que leurs parents n'ont pas. Ils ont peut-être acquis à l'expérience, disons, le jeu sexuel, mais eux-mêmes, on ne leur a pas enseigné grand-chose. Donc, c'est un peu difficile. Quand les enfants vous disent, j'ai accepté les avances d'un garçon en croyant qu'il m'aimait, et puis, bon, j'ai couché avec lui sans me protéger. Aujourd'hui, vous nous formez avec cette formation. Si cette formation était venue plus tôt, je ne serais pas tombé dans cette bêtise. Ils disent bien bêtise, et Juliana a repris le même mot tout à l'heure. L'autre dit, je veux conseiller à mes camarades, je pense que si j'avais eu une telle formation au départ, alors j'aurais pu comprendre que les études, ce sont nos premiers maris, il nous faut aller à l'école. Voilà, les enfants expriment qu'ils ont besoin d'une information qu'on ne leur donne pas. Et c'est à la faveur de la formation des clubs que nous nous sommes rendus compte de
leur réalité. Vous croyez à une formation par les pairs, c'est-à-dire à des jeunes entre eux?
Bien entendu. Imaginez-vous qu'à l'école, excusez-moi, quand une jeune fille a ses menstrues, qui la supprime, elle ne va pas directement interroger le professeur ou l'éducatrice. Elle va d'abord se cacher avec sa camarade, trouver les moyens de bord.
Juliana, c'est comme ça que ton histoire, d'ailleurs, tu as essayé de trouver des solutions. D'abord, tu ne parlais qu'à ta meilleure copine à l'école, hein. C'est bien ça, non?
Voilà. Oui.
C'est ça. Donc,
tu parlais à personne d'autre. Mais elle n'a pas trouvé la solution, elle non plus.
Oui.
Et autour de toi, aucune camarade ne t'a dit « Ouh là là, fais attention, j'ai vu que tu sortais avec un homme. » Personne n'était informé pour te mettre en garde dans ta classe, dans tes amis?
Non.
Ou certaines ont tenté de te parler?
Non, non. Ma camarade me confiait.
Seulement ta camarade? Et qu'est-ce qu'elle te disait, ta camarade?
Elle n'en savait pas grand-chose. C'est pour ça aujourd'hui.
C'est ça, elle était perdue comme toi?
Voilà. Naïve. Voilà, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous disons qu'avec l'éducation par les pairs, mieux les pairs sont informés, les leaders des clubs, quand ils sont informés, ils pourront partager les informations avec les camarades.
Quand vous dites les leaders, vous pensez aussi beaucoup aux garçons?
Oui,
ou pas?
On passe aux garçons.
Parce que dans vos chiffres, il y a quand même 40% des grossesses en milieu scolaire qui
dans
se
les
font
auteurs,
par les camarades de classe.
Voilà, c'est ça. Donc, plus les pairs sont informés, mais il n'y a pas seulement que les grossesses. Vous voyez, les garçons contractent des IST, les infections sexuellement transmissibles.
D'accord.
Et donc, il faut qu'ils échangent. Il faut qu'ils soient mieux outillés pour pouvoir transmettre l'information. Vu que les parents ne communiquent pas avec eux et qu'ils ont plus l'information avec leurs camarades, il faut que ces camarades soient mieux formés pour pouvoir mieux informer les pères.
Justement, Emmanuel, dans l'étude qu'on a faite, on a essayé de tester la connaissance et la perception que les élèves avaient des clubs de santé. Bon, on s'est rendu compte que ces clubs sont peu connus des élèves, mais sont très très efficaces, vus très positivement par les élèves qui ont pratiqué ces clubs.
C'est ça, encore faut-il y aller dans ce club de santé.
Ah ben oui, ça veut dire quoi? Que la formation par les pairs, elle a le lieu même de la demande par les jeunes. Et c'est justement là que le ministère doit aller et s'il veut améliorer, par exemple, l'éducation à la sexualité chez les jeunes.
Maintenant, évidemment, c'est la Journée internationale des filles. On sait qu'il y a des grossesses précoces de filles en milieu scolaire. Que faire pour réintégrer ces filles dans un parcours scolaire? On en discute aujourd'hui.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
Juliana, tu nous as raconté ton histoire tout à l'heure. On a bien compris que, bien évidemment, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. À 13 ans, tu as eu un enfant qui a 3 ans aujourd'hui, tu as 16 ans. Tu t'occupes de ton petit garçon, David. En admettant que tu puisses le faire garder, parce qu'il y a aujourd'hui des associations qui pourraient t'aider, en admettant que tu aies de meilleures relations avec ta maman, qui jusqu'à maintenant t'en veut beaucoup, hein, tu nous l'as dit, tu souffres beaucoup de cet abandon de ta maman. Aujourd'hui, tu souhaiterais reprendre tes études. Alors, quel est le réel problème aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas retourner, au moins au cours du soir, dans une formation professionnelle? Qu'est-ce qui se passe?
Ça manque de moins. Si mon père était encore en vie, même si j'avais pris la grossesse, J'étais enceinte et puis j'ai accouché. Là, j'allais continuer.
Tu penses que ton papa aurait payé pour que tu retournes à l'école?
Oui.
C'est ça? Aujourd'hui, très clairement, qu'est-ce qui est proposé à une jeune fille de 16 ans qui a arrêté l'école pendant 3 ans, qui travaillait bien à l'école, qui a des capacités? Qu'est-ce que l'État ivoirien lui propose à Juliana?
Juliana est juste à la limite de l'âge pour l'école obligatoire, mais elle n'est pas perdue pour de bon, parce qu'avec 16 ans, on pourrait aisément l'insérer à travers l'école passerelle dans une formation, j'allais dire qualifiante, dans une formation professionnelle. Non pas à l'école générale où elle va aller recommencer en sixième et elle va arriver peut-être en troisième à 20 ans, 21 ans. C'est un peu trop hasardeux pour elle. Mais je peux dire, Juliana, tu ne dois pas perdre espoir pour dire que ton avenir est brisé. La réaction de ta maman, la réaction de ton beau-père, c'est tout à fait normal pour des parents qui sont surpris par une grossesse dont ils ne s'attendaient pas. Et de prendre ton courage à deux mains, parce que tu peux y arriver. Tu n'as que 16 ans. Et à 16 ans, ça, vraiment, on n'est pas au soir de la vie. Voilà. Donc, tu peux proposer les cours du soir. Je pense que pour l'État ivoirien, quand une fille accouche, une fille scolarisée accouche, et qu'elle sort où elle est à la limite comme ça, on peut faire beaucoup de simulations. Souvent, elles craignent la stigmatisation. Elles ont honte de revenir dans leur établissement.
Ce ne sont pas donc les écoles qui refusent le retour des filles?
Oui.
Pas réellement?
Pas réellement en tant que telle.
Ou des lycées.
Mais dans son cas, elle est admise à l'entrée en sixième. Elle ne s'est même pas inscrite au secondaire.
On est dans l'autocensure.
Donc, voilà. Elle s'est autocensurée. L'école, le secondaire ne la connaît même pas. Elle n'a même pas de matricule là-bas. Donc, du coup, ça pose problème. C'est pour cela qu'on peut voir l'orientation vers l'enseignement professionnel.
Quand mais vous avez des grossesses de filles qui sont déjà au lycée,
voilà.
Quand il y a une grossesse qui est déclarée, vous avez la liste de ces filles-là,
on
vous
a
allez
la
les
liste
rechercher.
Des filles, on a les matricules de ces filles, on connaît leur lieu d'habitation, leur situation, etc., leur âge, leur classe, tout. Alors, qu'est-ce qui est préconisé? Vous avez contracté une grossesse, vous êtes en pleine année scolaire, vous continuez d'aller à l'école. Si vous pensez que vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais quand vous pensez que vous ne pouvez pas, on obtient un certificat de grossesse, on obtient une dispense ou un document de cessation d'activité scolaire, et puis on fait sa maternité tranquillement. Après la maternité, il va falloir revenir réintégrer. Et là, on fait le report de l'année scolaire pour vous permettre de revenir commencer. Mais de grâce, on ne dit pas que vous faites une grossesse, vous allez faire 5 ans à la maison, hein, fini de têter ou bien réinscrire votre enfant au CP1 avant de revenir à l'école.
Sur les certificats de grossesse, vous avez observé des pratiques qui sont tout de même assez douteuses selon les régions en Côte d'Ivoire, Francis Akindes.
Oui, l'étude a révélé qu'il n'y a pas une harmonisation du coût de délivrance de ces certificats.
Qui sont indispensables pour retourner à l'école, pour prouver à l'école qu'on a séché les cours pour une bonne raison.
Exactement. Et certaines filles en situation se retrouvent en train de sortir du système éducatif parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de payer cela. Et la plupart du temps, elles sont exposées au côté véreux de certains médecins qui délivrent ces certificats à des coûts très onéreux, surtout lorsqu'elles viennent avec des grossesses très tardivement.
Donc il faudrait des certificats de grossesse gratuits.
Alors ça fait partie des recommandations qu'on a faites au ministère de l'Éducation et je crois qu'il y a une réflexion qui est engagée là-dessus.
C'est justement pour cela que la DEMOS qui a...
Au ministère de l'Éducation.
Dans sa troisième mission qui est d'assister et d'aider les élèves en difficulté, notamment les jeunes filles, fait en sorte que le dispositif qui est mis en place, il y a des médecins, il y a des assistants sociaux, il y a des éducateurs spécialisés, fait en sorte que les médecins qui relèvent de la DEMOS puissent délivrer gratuitement cette documentation pour faire en sorte que la fille puisse déposer auprès de l'administration scolaire et qu'elle puisse revenir réintégrer l'école. Mais là, il y a une discussion avec le programme de santé scolaire et universitaire qui relève du ministère de la Santé et de toute autre structure qui relève du ministère de la Santé ou Prest aussi. Les médecins pour que vraiment on puisse avoir une harmonisation et qu'on puisse aller vers la gratuité. C'est un plaidoyer qui est en cours, qui n'est pas encore abouti, mais je pense que à cœur vaillant, rien d'impossible, on pourrait y arriver à coup sûr.
En conclusion, j'aimerais bien que vous nous disiez les uns et les autres qu'est-ce qu'il faudrait pour que la totalité des filles, déjà évidemment pour qu'on diminue le nombre de grossesses en milieu scolaire, mais que la quasi-totalité des filles qui sont enceintes, qui ont un enfant, puissent reprendre la suite de leur cursus éducatif.
Je crois qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la dimension psychosociale. Et les jeunes filles qui ont leurs enfants, et pour retourner à l'école, c'est très très difficile. Le regard des autres, le comportement des enseignants, le comportement de la famille, c'est très très difficile. Au lieu d'accompagner ces jeunes filles qui se sont trompées, on a tendance à les rejeter, à les stigmatiser. Et ça, il faut que les adultes se rendent bien compte que ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter.
Ça veut dire qu'elles ont une étiquette de mauvais élèves, en fait.
Exactement, exactement. Alors que c'est le moment où elles ont le plus besoin d'un accompagnement. Et donc, en plus de cela, l'enfant qui est né, il faut bien que cet enfant soit pris en charge. Et donc, Juliana l'a indiqué tout à l'heure, on lui dit de choisir entre l'école et la prise en charge de son enfant, ce qui ne devrait pas être le cas du tout. Et pour améliorer la situation, évidemment, il faut les collèges de proximité. La construction des collèges de proximité permet aux jeunes filles de ne pas être trop éloignées de l'école. Comme l'a dit le professeur Francis tout à l'heure, la distance qui sépare l'école du domicile, pendant ce trajet, les chauffeurs de taxi, moto-taxi, etc., profitent de la situation d'indigence de ces filles-là et abusent d'elles pendant le trajet à l'école, soit en allant ou au retour de l'école. Donc il faut vraiment améliorer cette situation. Et comme on l'a dit tantôt, renforcer l'éducation sexuelle et permettre le dialogue au niveau de l'école et au niveau de la famille.
Est-ce que dans le fond, ce phénomène, ce fléau des grossesses en milieu scolaire, ça ne donne pas une image désastreuse de l'école, ça n'envoie pas un message négatif aux familles? Vous voyez ce que risque votre fille? Déjà qu'elle n'apprenne pas grand-chose à l'école, que l'école est souvent tout de même perçue comme peu efficace, et en plus, elles ont ce risque, Francis Akindes.
Oui, l'image de l'école, elle est ce qu'elle
pour
est
pour les filles, hein, j'entends.
Oui, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Plus de 4000 filles qui tombent enceintes dans les institutions scolaires. L'école doit se poser des questions. Mais il n'y a pas que l'école. Ces filles, elles sont entre la famille, elles sont dans une société. L'école est une institution de la société. Donc toute la société doit pouvoir se poser des questions.
C'est vrai, mais il faut continuer à travailler pour la sensibilisation. Il faut communiquer et faire le dialogue. On ne peut pas se permettre de laisser la moitié de la population, et des jeunes, qui ne sont pas scolarisés parfaitement. Donc, il est important de vraiment agir ensemble avec tous les acteurs, parce que la solution ne se trouve pas sur une seule partie, et le gouvernement, l'État, les enfants, les familles, etc.
En termes d'image de l'école, il faut dire clairement que les enfants, les fillettes ou les adolescents qui tombent enceintes ne sont pas enceintes au sein de l'établissement scolaire, dans les écoles. Elles contractent leur grossesse lorsqu'il y a des moments creux. Quand on dit en Pâques, les enfants sont remis à leurs parents. Pendant les vacances, les enfants nous reviennent avec des grossesses à la rentrée.
Quand on quitte la classe en plein milieu pour aller répondre au message de son amoureux, comme Juliana nous l'a raconté, on se doute bien quand même qu'il y a des petits dysfonctionnements dans les écoles. Hein.
Oui, d'accord. Bon. Mais je veux dire que les parents doivent jouer leur partition. L'école va jouer sa partition. C'est tout le monde qui doit pouvoir sauver cette situation.
Merci à vous tous. Nous allons maintenant passer la parole à nos finalistes, puisque vous le savez, demain, on va donner le résultat du fameux concours numérique RFI Challenge App pour l'éducation des filles. Et donc, on va passer la parole à nos trois finalistes dans quelques instants. Merci à vous tous, messieurs, et merci à toi, Juliana. Merci.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et en cette journée internationale des filles, nous parlions des grossesses précoces en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Et surtout maintenant, on a la joie d'accueillir, vous savez, on vous en parle depuis plusieurs mois, de ce fameux concours RFI Challenge App pour l'éducation des filles. On a la joie d'accueillir nos trois finalistes. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Trois femmes, alors on n'a pas fait exprès, ça je peux vous le dire, parce que d'abord vos équipes en général étaient mixtes, on a reçu 600 dossiers, Sina Toussaka l'a beaucoup raconté sur nos antennes, hein, la responsable de ce concours, 600 dossiers, après le tri par le jury à 108 et puis ensuite à 13 et maintenant à 3, vous êtes 3, vous avez assisté à nos discussions, à notre débat sur le problème des grossesses précoces en milieu scolaire, à quel point cela nuit à la scolarité d'une jeune fille. Déjà, quelles sont vos réactions, toutes les trois? Sena Boutiam, du Sénégal.
Ça me rappelle, ne serait-ce qu'une anecdote personnelle, quand j'étais toute petite, j'étais envoyée à aller voir le dentiste après l'école et sur le chemin, j'avais été abordée par un adulte et heureusement pour moi, il représentait l'inconnu, l'étranger et j'avais été éduquée par rapport à ça et j'ai su lui dire non. Donc, je pense à toutes ces filles qui n'ont pas accès à cette éducation, à cette prévention et qui tombent dans les travers de ces hommes-là.
Raissa Banoro.
Moi, par contre, j'ai eu la chance en fait, d'avoir une mère enseignante et professeure d'SVT, mais qui ne nous parlait même pas de sexualité. On n'en parlait pas.
Et les premières... Alors qu'elle était prof de SVT.
Elle était prof de SVT. C'était vraiment bizarre. Donc, voilà. Oui. Donc du coup, c'est dit qu'à quel point en fait, la sexualité est vraiment tabou en fait, sur nos tropiques. Et ça, il faut essayer de régler ce problème-là.
Patricia Nzolantima, vous venez du Congo-Kinshasa, vous êtes ici pour la finale.
Oui, mais j'ai pratiquement le même avis que Raissa. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé le projet, le livre Maïnota, parce que c'était à cause de ce manque d'informations. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, il y a ce tabou. Je ne me rappelle pas moi-même que mes parents m'ont parlé, enfin ma mère ou mes tantes m'ont parlé de ce problème de menstruation ou de sexualité. Et j'ai une sœur, la dernière, qui a 22 ans. Et je ne me rappelle pas moi-même lui avoir parlé de cela, alors que nous avons eu accès à une éducation de qualité. Donc je pense que c'est un problème qui est vraiment lié en Afrique. On n'évoque pas beaucoup la sexualité au sein des familles.
Dites-nous en deux mots, en quoi consiste votre projet, Maïnota?
Alors, à la base, Maïnota est un livre que j'avais écrit sur l'éducation de jeunes filles qui part de la puberté parce que justement, à l'issue de problèmes qu'on a constatés sur le terrain où l'information n'était pas donnée auprès des jeunes filles qui créaient justement les causes des grossesses précoce, tel que nous l'avons discuté tout à l'heure. Et l'idée m'est venue de faire ce livre et à travers ce livre, de créer une application
numérique.
Et, voilà, numérique, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Afrique détient un grand nombre de personnes avec des téléphonies mobiles. Il fallait justement toucher, surtout que c'est une génération Y qui passe son temps sur les réseaux sociaux.
Ouais. Il fallait leur
donner, voilà, il fallait leur donner une application qui allait leur permettre d'avoir accès à l'information online et avoir toutes les informations nécessaires qui allaient les aider.
Et avec des personnages.
Avec des personnages, oui. Donc Nyota, c'est une petite fille très sage. Donc Nyota, en Swahili, signifie étoile, parce que toutes les mères voudraient que leurs jeunes filles deviennent des étoiles. Et il fallait qu'on puisse, à travers l'histoire de Nyota, donner l'accès à l'éducation à ces jeunes filles.
Raissa Banoro, vous, votre projet s'appelle Lucie.
Oh oui. Moi, par contre, je m'adresse à cette minorité de personnes, ces personnes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, ces personnes qui ont été déscolarisées ou mal scolarisées.
Donc, quand Lucie, vous dites ces personnes, c'est filles. Hein?
C'est filles, oui, en fait. Oui, donc, Lucie, en fait, est une application d'alphabétisation fonctionnelle. On entend par alphabétisation fonctionnelle, l'alphabétisation qui s'adapte aux besoins spécifiques, en fait, de l'utilisateur, c'est-à-dire c'est des filles. Donc, on leur apprend à lire, écrire, à calculer et on leur communique, en fait, des idéologies de bonnes pratiques de vie, la santé sexuelle, la santé reproductrice, comment gérer leur famille, comment gérer leur avenir, en fait, à travers l'alphabétisation.
Et pour vous, Sena Boutiam, vous êtes venue du Sénégal, vous êtes également, en fait, partie des trois finalistes et votre projet s'appelle Féminine.
Oui, alors Féminine, c'est une composante de tout un programme qui s'appelle Changeons les règles, justement, parce que tout est parti, en fait, d'une association. Moi, je suis la cofondatrice de YAIS, qui veut dire Maman en Wolof, qui est la première communauté de mamans connectées au Sénégal. Et à travers mes activités, j'ai noué un partenariat avec une structure qui s'appelle Happy Afrique, qui sont spécialisées dans le développement des serviettes hygiéniques réutilisables. Et c'est dans le cadre de ce partenariat, il y a là, en fait, où on travaillait sur la question des menstrues, qu'on est tombé, en fait, sur toute l'étendue du problème. Et Féminine, aujourd'hui, c'est la version, on va dire, digitalisée de ce qu'on a commencé à faire sur le terrain en termes d'information par rapport à l'accès à l'éducation, l'information, et pour justement, par rapport à tout ce tabou qui entoure la question, lever ce tabou-là à travers l'éducation.
Vous avez été sélectionné par le jury, par les partenaires, Orange, l'Organisation internationale de la francophonie, sur 600 projets, vous êtes arrivé trois dernières finalistes. Ça vous fait quelle impression, là, toutes les trois?
Ça fait waouh! ça fait waouh. Et puis, bon, je pense toutes les trois, je n'ai pas parlé pour les deux autres, mais une fierté justement en termes de reconnaissance pour tout ce qu'on a déjà commencé à faire et tout ce qu'on va continuer à faire de toute façon.
Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire là maintenant? Que la meilleure gagne.
Oui.
Voilà. Il y a 15 000 euros quand même à la clé hein, pour ce fameux concours. Quel suspense, les voisins, les voisines. Il faut attendre l'émission de demain pour connaître la gagnante.
On ne peut pas avoir la primeur de l'info.
Non. Et qui sera révélée par la présidente de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse. L'émission sera en public à l'Institut culturel français. Merci à vous tous, merci à l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Nicolas Benita à la réalisation. Et demain, 7 milliards de voisins, on diffusera notre émission enregistrée en public à Abidjan et à l'occasion de la remise du prix RFI Challenge App pour l'éducation des filles. Vous connaîtrez bien sûr la gagnante en fin d'émission. Et avant cela, un débat sur un sujet ô combien crucial aujourd'hui, en tout cas en Côte d'Ivoire. Le numérique peut-il vraiment créer des emplois pour les jeunes? Quels sont les métiers recherchés par les entreprises, par les start-up? Ne manquez pas l'émission, c'est à 10h10, temps universel. À demain, les voisins et les voisines.
Milliards de voisins, c'est fini.